Carrefour.
Quand vous me dites « Carrefour baisse ses prix !»
Eh oui, et de 10% en moyenne parmi vos produits préférés d'hygiène et d'entretien. Comme la boîte de 30 protèges slip larges Carrefour Soft qui passe de 1,36€ à 99 centimes, soit 27% moins cher. Et c'est chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive et sur carrefour.fr.
Carrefour, on a tous droit au meilleur. Prix baissé à compter du 1er avril 2024 par rapport au prix permanent des produits. Détail et liste des produits concernés sur carrefour.fr.
Vous écoutez
RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
On est de retour dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story. Et aujourd'hui, on est avec Rémi Barré, avec le journaliste Marianne Pirico-Légas, avec la militante associative Loumir Lapré, avec notre petit nouveau dans la bande. Aujourd'hui, c'est Valran Moulet-Berthaud. Il est entrepreneur fondateur de Crayon Média, le site dédié aux 16-34 ans. On parle dans un instant du ministre de la Santé, François Braun, qui ouvre la porte au remboursement de la cigarette électronique. Bonne ou mauvaise idée? Selon vous, on attend vos réactions. 32-16, 13h30, ce sera le meilleur du jour sur RMC, le zapping. On parlera de la Palme d'Or hier, qui a fait polémique, la Palme d'Or en fait pour Justine Trier, qui finalement a fait un discours anti-réforme des retraites juste après. 13h45, ce sera la Minute Conso avec Stéphane Pedrazzi. On vous expliquera les nouvelles règles de Netflix, enfin en tout cas ça va nous coûter cher. À 14h, une cousinade géante qui a rassemblé 824 membres d'une même famille dans le Nord ce week-end. Pour vous, les réunions de famille, justement, c'est l'enfer ou c'est le paradis? Vos témoignages, bien sûr, sur l'appli RMC. Et puis 14h30, RMC s'engage pour vous. On va tenter d'aider Morgane. Morgane, c'est un auditeur qui a accepté de mettre des panneaux publicitaires dans son jardin en échange de 50 euros par mois. Le problème, c'est qu'il n'a jamais été payé. Non. Et bien sûr, on va essayer de régler ce petit problème.
RMC, Estelle Midi.
13h05 sur RMC, on va s'intéresser tout de suite à l'idée du jour dans Estelle Midi. Et cette idée, eh bien, c'est celle du ministre de la Santé, François Braun, qui envisage le remboursement de la cigarette électronique par la Sécurité sociale. 3 millions de Français sont adeptes des vapoteuses. Mais concrètement, Rémi, ça se passerait comment ce remboursement?
Eh bien, les cigarettes électroniques seraient remboursées par la Sécurité sociale au même titre que les patchs ou les gommes à la nicotine. Bref, comme un outil de sevrage tabagique. On reste encore à définir les modalités exactes. Le projet pourrait être adopté dès la rentrée en tout cas, mais l'idée, ce serait comme pour les patchs ou comme pour les gommes tabagiques. Si vous êtes fumeur, vous avez décidé d'arrêter, vous allez voir votre médecin, vous en discutez avec lui, et puis il peut vous prescrire, dans le cadre de votre sevrage, ce type de produit.
Pour continuer à fumer, c'est super.
Attention, ça serait utilisé comme un produit de sevrage, au terme d'une discussion avec le médecin. Ça c'est sûr, des questions notamment sur le manque de recul sur la toxicité des cigarettes électroniques. Là les scientifiques sont absolument pas d'accord sur la toxicité. Et puis sur son accoutumance aussi. Effectivement, si on utilise la cigarette électronique comme outil de sevrage, mais qu'on continue à fumer la cigarette électronique, ça sert pas à grand chose. Et tu l'as dit, à l'heure actuelle, il y a quand même 3 millions de Français qui seraient adeptes de la cigarette électronique. Comme Valran, moi je suis fumeur et je sais que j'ai un certain nombre de comparses.
Tu fumes des roulés?
Ouais, mais j'ai un certain nombre de comparses fumeurs qui me disent « Ouais, mais j'ai arrêté de fumer » et je les vois depuis plusieurs années en train de fumer une cigarette électronique. C'est sûr que là, c'est autre chose encore.
Alors, faut-il rembourser la cigarette électronique comme ça se fait par exemple en Angleterre? Pirico-Légas.
Les remboursements sont faits en général pour des traitements pathologiques, c'est-à-dire des substances dont on a vérifié qu'elles apportent une solution à une maladie. Là, c'est une forme de prévention, mais c'est pas un produit qui guérit. Alors, si on arrive à une conclusion définitive et totale que ça limite le tabagisme, donc c'est des économies...
T'arrêtes le tabac parce que c'est pas du tabac.
Non, mais c'est-à-dire...
Les cigarettes électroniques, c'est pas du tabac, en fait.
Non, si on arrive à la... Je poursuis ma construction. Bon. Si on arrive à la conclusion que ça limite le tabagisme... Oui, ça peut se penser, parce que si ça limite le tabagisme, il y a des effets positifs immédiats pour la santé publique. Moi, j'ai un autre problème. Il y a une hypocrisie dans cette disposition. Il y a aujourd'hui en vente libre dans les bureaux de tabac ce qu'on appelle, j'ai découvert ça, des puffs.
Les puffs.
Les puffs. Comment?
Les puffs.
Les puffs, puffs. Ça s'écrit comment? PU2F, c'est ça? Alors c'est parfumé en vente libre. Qui aujourd'hui sont en train, passez-moi
les... Ils veulent les interdire.
D'accord, pour l'instant ça contamine la jeunesse totalement. Et ça incite indirectement, alors certains s'y tiennent, et se contentent de ça, c'est très bien, mais on sait qu'il y en a d'autres qui passent par frustration, ils disent, et si on allait au tabac?
Donc tant qu'on n'aura pas... Oui, mais sauf que les puffs, c'est à la barbe à papa, à la mandarine, à tout ce que tu veux, alors que le tabac, enfin, tu vois, c'est pas le même
goût. D'accord, sauf que si le puff encourage certains jeunes à aller vers la cigarette...
Non mais c'est une réalité ça, c'est
donc,
sûr.
Donc hypocrisie, on interdit d'abord les puffs. Et ensuite, on voit si on rembourse là, voilà. Mais on met les choses dans l'ordre.
Valran, vous êtes fumeur, vous aussi. Vous vapotez ou pas?
De cigarettes électroniques, justement.
Et vous seriez heureux de vous la faire rembourser?
Oui. Enfin, en tout cas, je trouve que c'est pas inaudible. C'est assez intéressant, en fait, comme idée. Moi, je trouve qu'on rembourse déjà. On offre beaucoup de choses aussi en France, donc c'est peut-être pas obligé d'en rajouter un. Mais oui. En tout cas, c'est pas du tout idiot parce qu'il y a pas mal de gens dans mon entourage très proches qui ont arrêté même la cigarette électronique. Après être passé de cigarette normale, cigarette électronique, à rien du tout aujourd'hui.
C'est le but.
Je pense notamment à ma petite sœur Sixtine. Et moi, à titre personnel, je suis passé de la cigarette à la cigarette électronique. Et je n'ai pas encore les études scientifiques exactes de quelle est la toxicité des cigarettes électroniques. En revanche, je le ressens dans le sport, parce que je fais beaucoup de sport. La différence de mal que j'ai à respirer entre il y a 2 ans et aujourd'hui, elle est énorme. C'est vraiment beaucoup plus facile aujourd'hui.
Ça vous a fait du bien.
Vraiment. Et donc voilà, je reste encore addict à la cigarette électronique. Mais j'ai l'impression, franchement, que si jamais c'est moins toxique, scientifiquement prouvé, ça peut vraiment aller dans le bon sens du tabagisme, parce que si jamais...
Personne ne dit que c'est plus toxique que la cigarette actuelle, ça c'est ça, voilà, il n'y a pas d'études dans ce sens.
Mais c'est surtout que ça peut coûter moins cher que les cancers que provoque la vraie cigarette, c'est aussi ça le sujet, parce qu'il peut y avoir aussi un pari long terme d'investissement, de se dire, si on va massivement sur la cigarette électronique en espérant que ça nous fera arrêter tout court... Peut-être que ça peut coûter moins cher en frais de remboursement médical liés à des cancers.
En tout cas, aujourd'hui, on n'entend pas de cancer induit par la cigarette électronique.
Et voilà, puis, soyons bien clairs, encore une fois, les modalités exactes de ce projet de remboursement de la cigarette électronique par la Sécurité sociale, ça sera à la rentrée. Mais enfin, l'idée, c'est pas non plus de financer la cigarette électronique ad vitam aeternam.
On ne va pas financer les parfums
Mais que ça soit bien clair, c'est dans le cadre d'un parcours médical, on va voir son médecin, il vous prescrit un remboursement de la cigarette électronique pendant un certain laps de temps, temps qu'il estime que vous soyez sevré. Et après, l'idée, c'est de ne plus utiliser du tout la cigarette électronique.
Il peut y avoir des programmes, il peut y avoir des applications. Je sais qu'il y a des applications
qui existent déjà.
Qui font des cartons. Il y a des très bons résultats sur ces applications parce que c'est une forme d'engagement envers soi-même. Moi, je pense que ça, pour le coup, ça peut vraiment aller dans le bon sens. Évidemment, il faut voir les modalités médicales exactes qu'il faut pour avoir ça, quoi.
C'est combien votre budget mensuel en cigarette électronique?
C'est pas non plus énorme, ça doit être peut-être 60, entre 60 et 80 euros.
Quand même, c'est déjà pas mal.
Oui.
Ça fait 8 paquets de cigarettes.
Oui,
quoi.
Je partage
un budget pour une semaine
du bureau.
Ça fait 160 cigarettes, ce qui nous fait quand même 5 cigarettes un peu plus par jour. Quoi.
Oui, mais c'est très très loin aujourd'hui du 300 euros par mois que c'est de fumer un paquet de cigarettes au quotidien. Hein, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même ces chiffres-là, c'est énorme. Il y a 10 ans, c'était la moitié de ça. Hein.
Est-ce que, Loumière Lapré, pour vous, c'est moralement gênant quand même de payer, même si c'est des cigarettes électriques, de payer des cigarettes à des gens?
Non, je pense pas, parce qu'on paye pas des cigarettes à des gens. On finance un parcours de soins. C'est pas la même chose du tout. C'est comme si tu te
Les gens, ils fument pas une cigarette. Quand ils fument à la vapoteuse, ils sont contents d'aller fumer leur vapoteuse avec un café, par exemple. Donc on n'est pas sur un parcours de soins.
Si, on est sur une sortie d'addiction de quelque chose qui est bien plus dangereux. C'est ça.
Oui, après, je pense que du plaisir.
Mais c'est pour
ça. Pas de médicaments pour le plaisir. Je vais prendre un Doliprane.
Non.
Des antidépresseurs. Des antidépresseurs pour le coup.
On va par plaisir.
Non, mais ça te fait du bien.
Tu t'en passes.
Oui, mais ça te fait du bien.
Oui, mais tu te dis pas, waouh, je prends un antidépresseur avec mon café, c'est super.
Non, mais par contre, tous les traitements de substitution à l'héroïne, par exemple, à tout ce qui est substitution d'addiction plus grave. Finalement, c'est moi je pense que c'est un pas en avant. Il faut pas voir ça comme la dernière étape de soins, mais en tout cas vers une déjà un c'est mine de rien l'addiction, elle est la nicotine, mais elle est aussi la pratique. Et ne plus avoir de paquets de cigarettes, ne plus avoir... Enfin, moi, je sais, j'arrête de fumer tous les ans, donc ça
ça n'a pas marché, manifestement.
Ça va bien.
Mettez-vous à la vapoteuse.
Je suis fumeuse intermittente. Je pense qu'il y a vraiment un enjeu à casser les habitudes aussi, et la cigarette électronique, c'est ça qu'elle permet. Mais ce que Rémi disait était très intéressant, qui est qu'en effet, ça va être encadré tout ça, ça va être suivi par un professionnel de santé, notamment pour éviter que finalement la cigarette électronique remplace totalement juste l'usage de la cigarette. Mais je rappelle quand même que
vers la cigarette,
c'est 66 000 décès évitables par an la cigarette, et c'est un poids financier énorme, notamment chez les ménages populaires. Enfin, là, on est quand même à presque 12 euros le paquet. Et on sait que tendanciellement, plus les gens sont pauvres, plus ils fument.
Exactement.
Et que il y a un vrai enjeu à les accompagner pour sortir de cette addiction qui en est vraiment une et qui doit être traitée comme telle et pas juste comme un petit plaisir avec un café.
Boris, on nous appelle d'Olyon, nous a appelé au 3216. Bonjour Boris.
Oui, bonjour Estelle.
Bonjour Boris, à toute l'équipe. Vous allez bien, Boris?
Ça va, merci.
Vous êtes fumeur ou pas?
Alors, je l'étais il y a encore 2 ans, ouais.
Bravo. Fumeur de cigarette ou de vapoteuse?
De cigarette. 14 mars 2021.
Ah oui.
Du jour au lendemain, moi, mon choix était d'arrêter sans cigarette électronique, justement, parce que j'avais trop d'exemples autour de moi, qui finalement, bah, ces personnes ont arrêté la cigarette, mais se sont mis à la cigarette électronique et ont créé finalement une autre dépendance. Ils ont créé, bah, ils ont une troisième main qui est apparue. On est dans des restaurants, on est dans des bars et on les voit. Ils ont leur cigarette qui est bien accrochée. On les sent, ils la tiennent en permanence. Et finalement, c'est peut-être même encore pire qu'avant, je trouve. Pour
moi, j'ai des amis qui l'ont autour de leur cou.
Tout le temps.
Je trouve ça horrible comme un badge.
Oui, parce que ça s'arrête jamais. C'est un peu le problème de la cigarette électronique, c'est que autant une cigarette, tu la commences, tu la termines, autant là, tu peux tirer autant que tu veux.
Et tu peux fumer en intérieur aussi.
Exactement.
Et tu peux fumer en intérieur.
Donc, en fonction des doses, pour moi, c'est reculer pour mieux sauter. En plus. Je pense qu'on n'a pas un recul, on n'a pas encore un recul assez important. Rien ne nous dit que dans 10 ans, on va pas avoir des études qui vont sortir et qui vont dire, oh mince, tout ce que vous mettiez dans la cigarette électronique, finalement, c'était cancérigène. On a plein d'exemples.
A priori, c'est bien réglementé quand même, Boris.
Oui, mais on n'a pas de recul.
C'est important. On a eu des exemples par rapport à des médicaments qui étaient prescrits il y a encore 20 ans. Et aujourd'hui, on se rend compte que c'est des médicaments qu'on n'aurait pas dû prescrire il y a 20 ans.
Et encore une fois, comme il le dit, pour ceux, certains ont une consommation immodérée de la cigarette électronique, c'est-à-dire qu'ils fument tout le temps. Totalement. Et quand tu commences le matin,
si t'as que des ingrédients sains à l'intérieur.
Oui, mais non, c'est de la fumée quand même. Tu inhales de la fumée. Si tu
commences, mais c'est pas de la vraie fumée.
Ah si, tu inhales quand même de la fumée. C'est pas naturel. Et si tu fais ça du matin, jusqu'au soir, il peut y avoir des conséquences.
Le gars qui va fumer du matin au soir, ça va poter. C'est qu'a priori, au départ, il était à 3 paquets de cigarettes par jour. Donc l'un dans l'autre,
Si. Moi, j'ai vu des amis qui aujourd'hui, du matin au soir, sont avec leur cigarette électronique alors qu'ils fumaient 4-5 cigarettes par jour.
Exactement.
Et puis il y a même aussi ce truc, c'est plus facile en fait de s'y mettre pour des gens qui trouvent que la clope est dégueulasse en termes d'odeur, alors que pour le coup la cigarette électronique, ça peut être un peu plus doux.
C'est là-dessus qu'il va falloir légiférer, c'est que encore une fois, j'ose espérer que le packaging des cigarettes électroniques vendues en pharmacie
sera moche.
C'est un peu comme il faut que ce soit rarement très joli.
Il faut que ce soit moche.
C'est pas un côté un peu tendance, tu vois, qu'elle soit pas très jolie cette cigarette et qu'il y ait pas de parfum effectivement qui soit des parfums un peu Jones,
tu vois. La puff quoi.
J'espère que ce sera des parfums soit qui se rapproche du tabac, mais enfin pas des trucs super sympas qui pourraient être un produit d'appel. Vous avez arrêté vous de fumer, Boris, sans cigarette, sans vapoteuse alors?
Ouais, c'était mon choix. Ouais, c'était mon choix. Mmh. Vraiment, je voulais arrêter sans rien. Ouais, exactement.
Et ça a marché.
Pour le moment, ça, je tiens le bon bout.
Bah écoutez, bon courage. Et bravo à vous. Loumir, vous voulez rajouter quelque chose?
Oui, non, je pense que, a priori, ce ne sera pas un produit d'appel à partir du moment où ce sera quelque chose qui sera prescrit par un médecin comme un médicament. On parlait d'antidépresseur, tu ne te pointes pas à la pharmacie en disant « Salut, je pourrais avoir du Xana... » Enfin, non, c'est pas un antidépresseur,
pardon, mais du Prozac. Il n'y a pas un bête de branding, ouais.
Oui, on s'en fout. L'idée, c'est juste d'avoir ce produit qui serait considéré comme un médicament. Et je pense que ça, c'est important, le médicamenté, entre guillemets. De même que d'ailleurs, un médicament, tu le prends pendant une certaine durée, puis après, t'es guéri et t'arrêtes. Et il faut le voir comme ça.
Effectivement, mais pour l'instant, on n'a pas les modalités. Rémi, que disent nos auditeurs, nos téléspectateurs sur la PIRMC?
Certains s'inquiètent quand même. C'est le cas de Yannick qui nous écrit cigarette électronique. Combien de non-fumeurs se sont mis à la cigarette électronique pour le côté à la mode? Moi, j'ai même vu des ados jouer à celui qui mettait le plus haut de nicotine dans sa cigarette électronique, sans compter que quand ça ne marche plus, les gens les balancent n'importe où. C'est vrai qu'il y a une pollution.
C'était le gros sujet des
débats, c'était une question de pollution.
Bien sûr, il y a des composants, il y a des métaux rares, il y a une batterie. Il y a une batterie, donc il faut la recycler.
Ça se trouve, on fera des cigarettes électroniques mangeables.
Peut-être. Qu'y a-t-il réellement dans ces produits? Inhaler un parfum goût chamallow ou chewing-gum, ça me paraît quand même pas très sain.
On est d'accord. Alors justement, on va poser la question à Jean Moiroux. Il est président de la Fédération interprofessionnelle de la VAP. Bonjour Jean Moiroux.
Bonjour tout le monde.
Merci beaucoup d'être avec nous. J'imagine que vous applaudissez les deux mains à la proposition de François Braun de rembourser la cigarette électronique.
Pour nous, professionnels du vapotage indépendant de l'industrie du tabac, ça a été quand même un soulagement dans la manière très claire qu'a eu Monsieur le Ministre de faire une différence très nette entre les produits du vapotage traditionnels, hein, ceux qui sont vendus dans les boutiques spécialisées que je représente aujourd'hui, et les puffs. Parce que le ministre, il a bien reconnu de façon explicite et assumée le rôle et l'efficacité de la vape dans les stratégies d'arrêt du tabac de nos concitoyens. Et ça, c'est une très bonne nouvelle pour la santé publique.
Mais pour vous, faut rembourser toutes les cigarettes électroniques ou un certain type de cigarettes? C'est ce qu'on disait, des cigarettes qui sont pas forcément attractive. Quel parfum il faut rembourser? Est-ce qu'on rembourse Barbapapa? Est-ce qu'on rembourse Citron Givré? Ou est-ce qu'on rembourse uniquement des cigarettes électroniques sans parfum ou au parfum tabac?
Alors, c'est un débat qui est extrêmement complexe parce que le tabac, c'est la première cause de décès évitable. Hein, ça tue 2 fumeurs sur 3. C'est un poison horrible. Et il faut contextualiser les discussions qu'on a, notamment autour des arômes, de la jeunesse, autour du danger que représente le tabac. La vape, c'est une solution de réduction des risques, 95% moins nocif que le tabac. Et ça, c'est prouvé par de nombreuses études et un consensus international. Et on peut se dire que tout accompagnement de ce dispositif de santé publique pour le confier à des fumeurs qui veulent arrêter de fumer, c'est bon à prendre. Moi, je pense que le gouvernement a des idées, en train de construire une politique là-dessus qui est progressiste, et je pense qu'ils sont enfin prêts à aligner leur message avec les usages des Français. Parce que le vapotage, c'est le premier outil le plus utilisé par les Françaises et les Français pour sortir du tabac, et c'est aussi le plus efficace.
Mais est-ce qu'il y a des addictions aujourd'hui au vapotage? Rémi Barré le disait, il a des copains qui fumaient 5 cigarettes et qui aujourd'hui sont à je sais pas combien de...
Du matin au soir.
Oui, de bouffées, de vapoteux, c'est comme ça qu'on dit?
Oui, c'est ça.
À la journée, donc si c'est remplacé une addiction par une autre, c'est compliqué.
Là-dessus, j'ai un petit élément de langage très simple pour bien faire la différence entre l'addiction et la dépendance. La dépendance, c'est une conduite addictive, on en a tous, hein, comme le café par exemple. Il y en a qui peuvent pas se passer de leur café le matin.
L'addiction, ça fait moins de morts.
Voilà, ça fait moins de morts, mais l'addiction, elle engendre des dommages sur la santé. La vape, c'est plus une dépendance qu'une addiction. Et en fait, la solution de réduction des risques qu'est la vape, c'est remplacer une addiction par une dépendance. Et une fois qu'on est en sécurité vis-à-vis du tabac, qu'on ait utilisé des patchs, des gommes à mâcher ou le vapotage, peut se poser la question d'arrêter progressivement la nicotine et d'arrêter la vape. Tout ça, c'est assumé par les professionnels de mon secteur.
Et est-ce que vous, justement, même si vous êtes président de la Fédération interprofessionnelle de la vape, est-ce que il y a une politique de prévention quand même chez vous, et que est-ce que votre objectif, c'est aussi quand même que les Français s'arrêtent aussi de vapoter? C'est-à-dire qu'ils vapotent à un moment, mais ils s'arrêtent de fumer et de vapoter à un autre moment, quoi.
Vous savez, il y a quasiment 15 millions de fumeurs qui restent en France. C'est, entre guillemets, une base de clients qui est énorme. Et nous, on est une profession jeune, c'est-à-dire qu'on est en capacité de se dire tous nos clients doivent pouvoir arrêter la vape s'ils le veulent, et on doit être en capacité d'estimer s'ils sont en sécurité vis-à-vis d'un retour potentiel à la cigarette pour leur conseiller des stratégies d'arrêt de la vape. Ça, c'est, entre guillemets, un problème de riche, mais c'est assumé, et le fait de la finalité, la fin de notre profession, elle est assumée dans la culture de notre filière.
Merci beaucoup, en tout cas, Jean Moiroux, d'avoir été avec nous et d'avoir été aussi clair. Rémi, d'autres messages sur l'appli RMC?
Oui, mais un témoignage positif, celui de Jean qui nous dit: la cigarette électronique m'a permis d'arrêter de fumer. Ça a pris un an, mais j'ai réussi. Je fumais depuis 15 ans 2 paquets de cigarettes par jour. Arrêter la cigarette m'a effectivement rendu dépendant pendant un temps la cigarette électronique. Puis j'ai mis 3 mois supplémentaires à arrêter cette fameuse cigarette électronique. Aujourd'hui, je ne fume plus rien du tout, et ce, depuis 2 ans.
Ouais, bravo. Ça peut permettre d'être une transition, finalement, cette cigarette électronique entre ceux qui fument et l'arrêt total de la cigarette. Julien nous appelle de Saint-Priest-Thoron. Bonjour Julien.
Bonjour. Alors Saint-Priest-Thoron, oui. Saint-Priest, pourquoi pas, ça passe aussi.
Saint-Priest, c'est à côté de Lyon. Et ça se situe où, Saint-Priest-Thoron?
C'est à côté de Limoges, juste à côté de Limoges, en 87.
Okay. Vous êtes un vapoteur, vous, Julien?
Je suis un vapoteur, ancien fumeur. Alors moi, j'ai fait l'erreur de commencer tard, déjà à fumer à 21 ans. J'en ai 39 aujourd'hui. J'ai un peu de recul un petit peu sur le produit. Ça fait quoi, 4-5 ans que je vapote. J'ai un frère jumeau qui a eu exactement la même démarche que moi, qui lui aussi a arrêté de fumer grâce à la vapoteuse. Et parce que je dis bien arrêter de fumer, à mes yeux, il y a 2 manières. Il y a fumer et vapoter. Fumer, clairement, il y a une combustion. Il y a brûlure de produits, de tous les problèmes et tout ce qu'il y a dans une cigarette. Mais vapoter, à mes yeux, ce serait un petit peu comme si vous faisiez bouillir de l'eau pour faire cuire vos pâtes. Ça crée...
Mais je bois rarement l'eau de mes pâtes, hein, Julien.
Et puis on l'inhale rarement, ouais.
Non, je suis d'accord. Mais sur l'idée, c'est pas de la fumée, c'est de l'eau.
C'est de la vapeur d'eau.
Oui, enfin, c'est pas de l'eau. C'est pas de l'eau.
Oui, si c'était que de la vapeur, Julien.
Des produits chimiques, quand même.
Oui, voilà. On mettrait son nez, vous savez, dans les trucs à vapeur, justement, quand t'as un rhume. Mais voilà, c'est pas ça. Mais Julien, en fait, vous dites que vous êtes vapoteur depuis 4 ans. Ça veut dire que vous n'avez pas réussi à arrêter la vapoteuse.
Non, mais honnêtement, aujourd'hui, je n'essaie pas d'arrêter la vapoteuse. Je suis quoi, 6 mg, je crois, de nicotine, donc ce qui est quand même assez faible par rapport à une cigarette normale. Mmh. Et aujourd'hui, ça me suffit, ça me va très bien. Je passe pas toute ma journée, effectivement, à vapoter, mais effectivement, je l'ai toujours dans la poche, je l'ai toujours sur moi. Mmh. Et si j'ai 30 secondes, je vais tirer une latte. Et je vais tirer une latte, je vais pas fumer une cigarette qui va durer 5-10 minutes. Oui. Je vais tirer une latte, après 10 minutes après je vais retirer une latte et ainsi de suite.
Mais vous arrivez pas à vous en débarrasser quand même.
Ben il y a le côté addictif de la nicotine, comme on dit, c'est la nicotine, l'addiction et
vous pouvez faire une journée sans ou pas?
Alors... J'ai jamais essayé.
Essayez demain, tiens, Julien, et puis rappelez-nous pour voir si ça marche. Parce que l'idée, effectivement, moi j'aime bien ce que dit Julien, il s'est arrêté de fumer, il s'est mis
à moindre mal.
Mais voilà, ça veut dire que c'est peut-être un moindre mal, mais n'empêche que tu vois, Julien, il n'arrive pas à s'arrêter comme ça.
C'est un moindre mal, mais ça reste un mal. Parce que c'est comme du produit chimique, enfin, c'est pas naturel.
C'est sûr, mais 66 000 décès par an, c'est quand même. Je veux dire, après, ce serait intéressant d'avoir en effet un recul. Plus important de la science pour voir à quel point il y a des types de cancers qui peuvent se développer aussi liés à la vapoteuse. Mais aujourd'hui, en tout cas, on ne sait pas trop ce qu'on risque, mais on sait ce qu'on risque avec la cigarette. Et, moi, mon grand-père est décédé d'un cancer du poumon après. Évidemment. Et d'ailleurs, on est tous fumeurs dans la famille. C'est là que c'est quand même dingue. C'est qu'on sait ce que ça peut avoir comme conséquence.
Mais t'as vu tes parents fumer.
Et c'est là qu'en effet, il y a un vrai terme d'addiction qui est valable. Quoi. Et on sait les risques associés. Et pour autant, on n'arrive pas à s'en passer.
Merci beaucoup, Julien, en tout cas, d'avoir été avec nous. Alors, est-ce que c'est une bonne idée ou une mauvaise idée de vouloir rembourser la cigarette électronique, Rémi?
Tu sais qu'en France, on a déjà fait pas mal d'émissions où on proposait des chèques alimentaires, chèques carburant, etc. On le sait qu'à chaque fois, nos auditeurs, ceux qui votent sur nos réseaux sociaux, sont assez hostiles à ce que l'État dépense une nouvelle fois pour aider. Là, c'est hostile totalement parce que c'est non à 86%.
Ah bon? Ouais. Ah mais j'aurais pensé l'inverse. Ouais,
c'est quand même important de dire que l'État paye déjà pour la sécu, les cancers, etc. On paye déjà tellement d'argent pour les cancers liés au tabagisme. On paye, quoi qu'il arrive, on le fait déjà.
Et là, on paiera ça vraiment cher. Pourquoi on n'interdit pas le tabac? Mais c'est un autre débat.
Oui, mais je suis assez d'accord avec vous, on a déjà eu ce débat.
C'est le cas en Nouvelle-Zélande. En Nouvelle-Zélande, toute personne née après 2008 ne pourra plus jamais acheter de cigarettes légalement.
Exactement. Allez, dans un instant, le zapping, le meilleur des RMC. On se demandera, mais comme à chaque jour férié, s'il faut les supprimer, ces jours fériés liés aux fêtes religieuses, parce qu'il y a Éric Piolle, vous savez, c'est le maire
de Grenoble.
Oui, alors lui, il souhaite en fait alors supprimer les jours religieux, mais par d'autres jours fériés, genre le jour de l'abolition de l'esclavage.
Oui,
voilà, écoutez, on va en parler dans un instant, et puis on reviendra aussi sur le discours de Justine Trier. Après sa palme d'or à Cannes, elle a pas trop aimé la réforme des retraites, Justine Trier. À tout de suite sur RMC.
RMC, midi 15h, Estelle Midi,
Estelle Denis.
13h31, vous êtes dans Estelle Midi sur RMC, à la radio RMC Story, canal 23 de la TNT. C'est le lundi de Pentecôte, mais nous sommes là, bien sûr, tous ensemble autour de la table avec Rémi Barré, Perico Légas, Loumir, l'après et le petit nouveau Valran, Moulet, Berthaud. Et tout de suite, c'est l'heure du zapping, le meilleur des RMC, c'est parti.
RMC, Estelle Midi,
le zapping RMC.
On va démarrer avec un extrait d'Apolline Matin. Ce matin, et notre marronnier qu'on adore, bien sûr, cette question. Faut-il supprimer les jours fériés liés aux fêtes religieuses? En tout cas, c'est la proposition d'Éric Piolle. Vous savez, c'est le maire Europe Écologie Les Verts de Grenoble. Et il souhaite remplacer, lui, ces jours fériés religieux par d'autres dates, comme celle, par exemple, de l'abolition de l'esclavage. Pour Marie-Josée, auditrice RMC, cette proposition va à l'encontre des racines chrétiennes de la France.
Moi, je suis pas trop d'accord, puisque on est quand même un pays chrétien, on va dire, et on est en train de tout nous supprimer. Enfin, on commence à tout nous supprimer.
Vous avez l'impression que c'est une attaque contre les racines chrétiennes de la France.
Oui, tout à fait. Moi, je le ressens comme ça.
C'est ça pour vous.
Moi, je suis attachée à mes. Je suis pas pratiquante, moi, par contre.
Oui.
Mais je vais pas à l'église. Mais j'ai mes racines. Et ce fameux Noël, c'est pour moi, c'est quelque chose que quand on voit les yeux des enfants qui sont émerveillés de mon temps, on va dire.
Non, mais toujours aujourd'hui, hein, Marie-Josée.
Noël, ouais. Voilà. Et ouais. On commence à nous enlever tous ces moments de joie.
Valran, est-ce qu'il faut supprimer les jours fériés liés aux fêtes religieuses et les remplacer par d'autres ?
Non, sans être comme exactement dans l'extrême. Moi, je suis de culture à la base chrétienne, même si je suis pas du tout pratiquant et même en vrai assez peu croyant. Non, je sais pas, c'est plus une question d'habitude. Je pense que beaucoup de Français, même qui sont pas de confession catholique ou chrétienne, sont habitués à ces fêtes-là. Je trouve que c'est très bien de les garder plus dans ce sens-là. Après, la question de se poser d'en remplacer peut-être un ou deux marginalement, en disant que un est peut-être moins nécessaire dans la culture chrétienne et l'autre peut être intéressant dans la culture commune française sur des dates historiques où Eric Piolle parlait de l'abolition de l'esclavage, pourquoi pas ? Je sais pas, moi j'ai toujours l'impression que on essaye de calquer chacun son agenda politique en fait et de prendre des jours culturels pour faire avancer ses idées plus qu'autre chose en fait.
Vous êtes d'accord avec ça, vous Lumière Laprès, faut changer ces jours, ce jour férié?
Bah, je pense que c'est un sujet qui est important et c'est important d'ouvrir le débat parce que en effet c'est pas anodin dans un pays laïque qui est la France qui se réclame de la laïcité en permanence, conserver un calendrier qui est basé sur des fêtes religieuses. Je pense que si on part du principe qu'on conserve un calendrier avec les fêtes religieuses, alors se pose la question de l'ouvrir à d'autres religions. En l'occurrence, des fêtes importantes juives et musulmanes, qui sont les autres religions qui sont largement pratiquées en France. A priori, vous allez deviner. Moi, je trouverais ça très beau d'avoir un jour qui célèbre en effet l'abolition de l'esclavage, comme on a des jours qui célèbrent des victoires militaires déjà. Et je pense que c'est important parce que pourquoi ? C'est comme les noms de rue. On avait déjà eu ce débat. Oui. Un jour férié, c'est symbolique en fait. Et donc ça montre aussi ce que collectivement on veut célébrer. Moi, je pense
Alors on enlève Noël ? Non, et on le remplace par le 27 avril 1848, la date de l'abolition de l'esclavage.
Et c'est là qu'en fait, il y a aussi un vrai... tu vois, par exemple, ce matin, je vais m'acheter un sandwich pour la pause. Et donc, je discute avec le gars qui me dit, c'est quoi aujourd'hui et pourquoi c'est férié ? Enfin, franchement, je savais pas. Moi, je suis pas croyante. Non, et je ne savais pas ce que c'était la Pentecôte. Tout le monde sait ce que c'est Noël. Donc, je me dis qu'il y a peut-être un enjeu à voir quelles sont les fêtes qui sont devenues...
C'est-à-dire que c'est un jour de solidarité, tu bosses gratuitement. Je sais pas si on te l'avait dit.
Oui, ben ça, si, ça je savais. Mais donc tu vois, il y a des fêtes qui sont rentrées dans l'imaginaire collectif laïque, Noël en l'occurrence, et il y en a d'autres qui restent des fêtes chrétiennes. Donc peut-être que ces fêtes qui sont purement chrétiennes peuvent être remplacées par des fêtes qui soient laïques et collectives.
Donc l'Assomption, la Pentecôte, par exemple. Péric Olégas, vous qui êtes très attaché aux traditions françaises, ce sont des traditions chrétiennes, mais enfin ça fait partie aussi des racines françaises. On les enlève ces jours fériés, et puis on change. Bon, on peut prendre le 12 juillet aussi.
J'ai l'autre jour pour on avait un débat sur l'Aïd. Il y a peut-être effectivement des territoires où il y a une majorité de musulmans, on pourrait faire des fêtes musulmanes.
Tu vas pas faire des jours fériés par territoire.
Non, alors, mais je sais que c'est une beaucoup plus intelligente. Oui. Pourquoi les remplacer? On les supprime, c'est tout.
Ben c'est ça.
Voilà.
Un non.
C'est pas nos racines, ça sert à rien.
Non, mais moi,
moi, je veux pas qu'on me la remplace par autre chose. Attention,
bah pourquoi
on va discuter.
Pas du tout. Bah oui, on va discuter.
Moi, je veux la fête du hareng en ce moment-là aussi.
D'accord.
Est-ce que c'est peut-être moins important que l'abolition de l'esclavage ?
Oui, quand même. Tout le monde va arriver avec sa fête. Alors, on me dirait, on va mettre le 18 juin. Voilà. La Pentecôte, c'est une fête formidable. C'est
oui, j'ai regardé du coup.
Et tout le monde parle la même langue. Toute l'humanité se comprend.
Oui, c'est vrai.
C'est un symbole de fraternité formidable. Elle est bonne pour tout le monde. Voyez.
Oui, mais c'est vrai que même des gens de culture chrétienne ne savent pas ce que c'est que la Pentecôte.
Mais personne ne sait plus rien.
Est-ce qu'on peut ouvrir le débat, mais est-ce qu'on pourrait pas remplacer, je prends cet exemple un peu populaire et marrant, mais est-ce qu'on pourrait pas prendre une victoire de la Coupe du Monde de la France, par exemple?
C'est ce que j'ai dit, le 12 juillet.
Évidemment. Je déteste le football.
Mais après, excusez-moi, mais le 12 juillet, ça nous arrange pas avec le 14. Vous voyez, c'est un peu trop
proche.
Bien sûr.
Mais c'est un jour férié laïque.
J'aime cette
Moi, je mettrais un jour en février, un jour en mars. Il faudrait trouver.
Reprenons le calendrier révolutionnaire. Il y avait 30 mois par semaine, puis ensuite il y avait des fêtes de la nature et autres. C'était formidable.
Et
en plus, l'année commençait vraiment le vrai jour de l'an. C'est le 21 mars, c'est-à-dire c'est le début du printemps. C'était le calendrier ancien. Et on suit la nature, c'est un calendrier écologique. Et puis Noël, il est jamais né le 25 décembre, le Christ. On sait très bien quand il est né, voilà. Donc tout ça, abolissons Noël, toutes ces fêtes, refaisons un calendrier en fonction de d'avis la nature, de voilà.
Et dispatchons-les aussi au cours de l'année.
Avec quelques jours en plus pour Estelle Denis. Parce
mais que ce soit les vendredis alors.
Je suis pas d'accord, c'est pas le mois de mai où il fait beau et il y a beaucoup de trucs fériés, c'est quand même sympa parce qu'il fait encore profiter.
Un calendrier paresseux.
Mais tout le monde n'a pas de RTT.
Ça y est, allez,
Le calendrier, je suis pour le calendrier, est paresseux. Voilà. Non, on va travailler quand on veut, c'est tout.
Mais ce que parce que c'est quand même une croyance qu'on a en France qui est très ancrée, on n'est pas le pays avec le plus de jours fériés du tout. Il y a de très nombreux pays qui ont beaucoup plus de jours fériés que nous, notamment des pays religieux qui célèbrent. Oui, on est dans la moyenne haute, mais on est aussi la sixième puissance mondiale.
Et en plus, dans ces pays-là, si tu célèbres pas la fête, tu vas tout de suite, pompon, tu prends la bastonnade. Alors je peux te dire.
Oui, c'est vrai. Alors que nous, c'est des vrais jours fériés où tu peux faire autre chose.
Très bien. Les grandes gueules ce matin sur RMC. Samedi, la Palme d'Or à Cannes a été remportée par Justine Triet pour son film Anatomie d'une chute. Mais l'actrice a profité de son discours pour évoquer son mécontentement sur la réforme des retraites. Alors comprenez-vous son coup de gueule pour Bruno Pomard. Le monde de la culture est aujourd'hui un monde d'enfants surgâtés et ça donne une image de la France déplorable.
C'est quand même affolant de voir ce qu'on a entendu ce week-end. J'ai repris une phrase qui était intéressante sur un journal, c'est le naufrage d'une société d'enfants gâtés. C'est exactement ça le monde de la culture actuellement. C'est-à-dire vous avez une caste de gens hyper protégés, super financés, puisqu'ils prennent près de 11 milliards. Le ministère de la Culture distribue 11 milliards pour produire des centaines de films tout au long de l'année.
Pas du tout.
Pour toute... Si, c'est 11 milliards. Mais si, tu peux dire ce que tu veux, c'est la vérité. Ouais. Moi, je trouve que c'est lamentable et totalement dépassé. Ça n'a rien à voir. C'est un discours politique alors qu'on est sur un mouvement de culture. Le Festival de Cannes. C'est regardé dans le monde entier. Non, mais je vais faire un parallèle avec l'Eurovision.
Je croyais que c'était Lazara.
Ça file une image encore de la France détestable. Et j'en reviens évidemment à l'Eurovision avec Lazara qui nous a sorti le doigt d'honneur. Voilà un petit peu l'image de la France qu'on donne.
Perico Legas, elle a raison, Justine Triet, finalement, de faire ce discours. Voilà, elle avait envie de le faire, elle est Palme d'Or à Cannes, et elle dit, je vais pousser mon coup de gueule anti-gouvernement à ce moment-là.
Elle a le droit d'avoir ses opinions, elle a le droit de les exprimer à n'importe quel moment, mais ne transformons pas ces grands instants culturels, que ce soit les Oscars ou d'autres. On en profite pour en faire une tribune personnelle pour aller raconter son histoire.
Oui. Bon, c'est mieux que de remercier papa maman, non ?
Je ne sais pas, parce que demain, il y a peut-être d'autres personnes beaucoup moins bien intentionnées qui profiteront, puisque les autres le font. Moi, je vais aller raconter mon petit problème personnel, mon problème politique, mon problème confessionnel. Ouais. Et je vais les
nettoyer. C'est ça, la Palme d'Or
Non, tout peut arriver. Et aujourd'hui, ces gens-là sont en train de transformer des instants qui sont culturels. Les artistes qui se disent engagés, comme ils sont très frustrés de pas avoir été en 40, ils ont pas vécu en 40, ils ont pas pu se battre contre
le Hamas.
Alors donc ils se drapent de la vertu, de la résistance contre le capitalisme, contre le racisme. Et donc comme ils ont des destins nuls et qui sont à peu près talentueux, Greta Garbo. Alors donc elle va exister parce que elle aurait rien dit. Elle aurait rien dit. Je serais même pas su qu'elle avait la Palme d'Or. Grâce à sa connerie, elle a réussi à faire savoir qu'elle avait la Palme d'Or. Elle a un très bon conseiller marketing. Elle est très forte en com.
Ou alors elle est juste profondément engagée, tout simplement.
Chérie, mais tu sais, avant d'autres, il y avait des choses plus graves pendant la guerre d'Algérie et tout. Personne ne s'est jamais permis, aux heures les plus tragiques de l'histoire, de détourner le festival de Cannes pour faire sa petite grande. Tout le pays était en révolution.
Oui, mais c'est par ses engagements politiques. C'est par ses engagements politiques que Godard, avec d'autres réalisateurs, a permis
d'adapter. D'accord, mais c'était un autre contexte que la réforme de retraite. Son petit prurite nerveux,
Valran Mouliberto.
Moi, je suis d'accord que son coup de gueule sur la marchandisation du cinéma est déplacé parce qu'elle a ses intérêts personnels dedans. Donc, je trouve ça pour le coup un peu plus déplacé.
Surtout que le gouvernement, finance ses films.
Déjà, en plus, l'État finance déjà les films. En revanche, sur la réforme des retraites, je trouve ça pour le coup sain et même courageux, pour être très franc, de prendre position sur quelque chose qui, pour elle, la concerne pas forcément directement. Et je trouve ça assez courageux. Et je pense que quand Harrison Ford le fait sur le climat, quand DiCaprio le fait sur le climat, quand Vincent Lindon le fait sur le Covid, j'ai l'impression qu'on est tout le temps en train d'applaudir. Et pas parce que.
Excusez-moi, le climat, à ce que je cherche, ça concerne la planète, le Covid concernait la planète. Là, c'est un truc franco-français. La Palme d'Or, c'est quelque chose. C'est un festival international.
Ça reste, je trouve, assez courageux de le faire. Et si elle le pense, et que c'est aussi le rôle des artistes
elle
de parler. Après, c'est vrai qu'elle a une position facile.
Il n'y a aucun courage. Elle
a une position facile pour le faire. En revanche, ça peut être aussi intéressant de, elle, donner la parole dans des prochains films ou des documentaires à des gens dont elle défend les combats.
Mais vous savez ce qui serait courageux, c'est qu'elle refuse. Elle refuse l'argent du CNC. Elle refuse les aides de l'État.
C'est génial.
Alors là, franchement, ça aurait de la gueule. Ce serait super.
Elle ne peut pas faire de films sans les aides du CNC. Alors moi, je veux bien reprendre le truc de base. Si vous avez fait un petit tour sur Twitter depuis cet épisode, vous vous êtes rendu compte que, notamment les membres du gouvernement, ont l'impression que ce sont eux qui détiennent l'argent des Français, en disant, en gros, quelle ingratitude avec tout l'argent que nous vous donnons. Je rappelle que le gouvernement ne donne pas d'argent, ce sont c'est notre argent, le gouvernement est le gérant temporaire de l'argent des Français. Donc ça n'est pas parce que le gouvernement, à un moment, pendant 5 ans, organise notre argent pour la culture, qu'il doit, comme ça, pouvoir s'attacher à la loyauté des artistes. Et donc, faire en sorte que la totalité des artistes, parce qu'on leur a fait un chèque qui leur est dû, parce que c'est comme ça que le ministère de la Culture est organisé en France depuis avant Macron, et ça sera le cas après.
Attendez, mais ça leur est dû, ça leur est
non,
dû.
Non, ça leur est pas dû.
Mais c'est-à-dire que c'est quand même organisé dans la politique française. Et donc, ça ne date pas de Macron.
On peut aussi leur donner moins de budget.
Oui, on peut, mais ça ne date pas.
Il y a certains films, je m'étonne qu'ils soient financés.
Ça ne date pas de Macron. Donc ça n'est pas...
Bah alors c'est pas un dû non plus.
Ça n'est pas... Alors peut-être que ça n'est pas un dû. Alors ce n'est pas forcément le bon terme. Or, par contre, ce que je veux dire, c'était pas parce que pendant 5 ans, c'est le gouvernement qui va faire l'échec, juste parce qu'en fait, ils sont là, que du coup, on leur doit totale allégeance, en fait.
Non, mais dans ces cas-là, mais tu critiques un truc, tu critiques le gouvernement, tu critiques leur politique, mais bravo, mais fais ce que tu veux. Oui. Mais dans ces cas-là, tu ne prends pas l'argent du gouvernement.
Mais ça n'est pas l'argent du gouvernement. C'est notre argent. Moi, je suis heureuse de payer des impôts. Je suis heureuse de payer des impôts pour pouvoir financer la culture en France.
Moi, je préférais les payer pour l'hôpital.
Non, mais ça, c'est. Alors, moi, si je peux me permettre, c'est quand même une mise en concurrence très très dangereuse.
C'est ce que tu as fait tout à l'heure sur les violences faites aux femmes.
Oui, exactement. Tu veux qu'on parle des montants 5 minutes? Parce que moi, je peux te parler du montant du CICE. Et en l'occurrence, ça n'est pas parce que
le CICE, c'est pas le débat.
C'est toi qui m'en reparles. Donc je te dis,
les montants qui sont alloués aujourd'hui par le gouvernement, en tout cas par l'État, au cinéma français, tant mieux. Et si on n'est Palme d'Or, bravo Cocorico. Il n'y a pas tant de réalisateurs français que ça qui ont été Palme d'Or, donc formidable. Mais je pense qu'il y a quand même quelque part une hypocrisie du fait de à la fois critiquer le gouvernement et de prendre l'argent en même temps. Ça me gêne.
Et ben, alors
Blanche Gardin,
par exemple,
sur Amazon, elle te dit, elle dénonce Amazon, mais elle te dit, je comprends pas le chèque d'Amazon.
Mais ça n'est pas du tout la même chose. Ah bon. Aujourd'hui, on vit dans un système où la culture en France est sponsorisée par notre argent, en tant que contribuable, en tant que citoyen français, pour s'assurer que notre pays rayonne et que tout le monde ait accès à la fois à faire des films, puis à aller voir des films. Donc en fait, ça n'a aucun rapport avec Amazon qui veut payer une actrice en particulier pour se faire de la thune. Ça n'est pas la même chose. Ça n'est pas possible en France de faire de la culture sans l'argent public.
Oui.
Parce que la culture, comme l'hôpital et comme l'éducation, n'a pas toujours vocation à être rentable. Et donc, en fait, il faut qu'on arrête de toujours vouloir voir un retour sur investissement financier avec l'argent de nos impôts.
C'est ce qu'on demande à tout le monde, en fait.
C'est un problème, c'est pour ça que l'hôpital et l'éducation sont dans une décrépitude absolue, parce qu'on les met en concurrence les uns avec les autres, et parce qu'on part du principe...
Il faudrait que le cinéma soit... En revanche, on ne demande rien.
Non, c'est pas vrai. D'ailleurs, elle dit que de plus en plus, on demande, et c'est ça qu'elle dénonce. Elle dénonce la marchandisation qui deviendra forcément, en gros, une sorte d'homogénéisation, où on ne finance que des films dont on est sûr qu'ils vont faire les entrées.
Je t'assure, quand on voit le nombre d'entrées de certains films français, tu te dis que franchement, on est peut-être autre chose à financer.
Oui, alors quoi? Est-ce que on se dit aussi quand on emmène des gamins à l'école en disant, bon, de toute manière, ils parlaient pas bien français, bon, on avait autre chose à financer. Quand on finance des gens en soins palliatifs parce qu'ils allaient mourir, on a autre chose à faire. Qui décide ce qui est rentable?
Mais c'est pas juste où est-ce qu'on met l'argent. Juste de pas être hypocrite. Voilà,
ça n'est pas hypocrite que de dire j'ai bénéficié de ce système. Et d'ailleurs, ce qu'elle dit, c'est grâce à l'exception culturelle française que j'ai pu.
Et pour en bénéficier d'autres.
Que j'ai pu m'élever à ce niveau. Et aujourd'hui, je suis triste, je déplore que les gens qui viennent après moi n'auront pas cette chance.
Allez, dans un instant, on va parler de cinéma à la maison, on va parler de Netflix. Vous savez que les règles ont changé, ça va coûter beaucoup plus cher. Et ces règles, jusqu'ici, elles étaient hyper floues. Mais heureusement, Stéphane Pedrazzi m'a tout nous expliqué dans un instant sur RMC. À tout de suite.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
13h52, vous êtes dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story. Et c'est l'heure de parler conso avec Stéphane Pedrazzi.
RMC, Estelle Midi.
La Minute Conso.
Et on va parler conso télé, Stéphane Pedrazzi, avec vous, avec les nouvelles mesures de Netflix. On l'a bien compris il y a quelques jours. Netflix, ça va nous coûter plus cher, mais on ne sait pas très bien ni comment, ni pourquoi, ni quand.
Alors, si vous partagez vos codes ou si vous utilisez les codes de quelqu'un d'autre, vous avez sans doute reçu un message de Netflix pour vous rappeler que l'abonnement, c'est uniquement pour les personnes du même foyer, c'est-à-dire uniquement les personnes qui résident à la même adresse. Très concrètement, ça veut dire toute la période de tolérance qui dure en gros depuis la création de Netflix, c'est maintenant terminé. Alors, si vous êtes dans cette situation, il y a deux options. Soit vous créez un nouveau compte pour les passagers clandestins, c'est-à-dire ceux qui utilisent les comptes d'autres personnes. L'avantage, c'est que vous allez pouvoir continuer de garder toutes vos préférences, votre historique de visionnage et d'avoir des suggestions qui vous correspondent, de ne pas avoir des mangas si vous détestez ça. Enfin, voilà. L'autre option, là, ça coûte 8,99€ par mois pour l'option la moins chère. L'autre option qui est la plus intéressante économiquement, c'est le partage de code. Vous continuez, mais vous payez une option pour la légaliser, entre guillemets. Et dans ce cas, il faudra payer 5,99€ par mois, en plus, évidemment, de ce que vous payez déjà tous les mois.
Mais par code en plus ou en tout pour avoir
par code codes supplémentaire.
Ah mais quand même.
Oui, si tu rajoutes deux personnes, ça fait deux fois 5,99€. Alors si vous êtes rassuré, si vous êtes concerné, rassurez-vous, vous n'êtes vraiment pas les seuls dans cette situation. Netflix estime qu'il y a environ 100 millions de personnes dans le monde qui partagent leur code de connexion. Ça fait 45% des abonnés à peu près. Donc pratiquement une personne sur deux. Et c'est la raison pour laquelle Netflix, qui disait rien au départ, a commencé quand même à s'intéresser sérieusement à ces 100 millions de personnes qui pourraient payer.
Oui, mais alors le problème, c'est qu'on ne sait pas en fait qui ça concerne. Par exemple, imaginez, vous avez une famille avec les parents divorcés. Oui. Vous avez les deux enfants qui sont en garde partagée. Une semaine chez le père, une semaine chez la mère. Donc, est-ce que vous êtes obligé, pour ces enfants, vous faites quoi? Ils ont deux comptes Netflix, une fois qu'ils sont chez leur père, une fois qu'ils sont chez leur mère. Comment
alors,
ça se passe?
En théorie, ce sont deux foyers différents, donc il doit y avoir deux abonnements séparés. En pratique, normal. Netflix a quand même pensé à la situation des enfants, et notamment, il y a les familles recomposées, mais il y a aussi les enfants qui sont étudiants, qui ne sont pas à la maison la semaine, et qui ont leur propre logement en ville. Netflix a bien compris que les parents n'allaient pas payer deux abonnements pour ces enfants. Donc, en fait, la règle, si vous utilisez Netflix sur les appareils mobiles, c'est-à-dire une tablette ou un téléphone portable, il faut se reconnecter au domicile, au Wi-Fi, avec l'adresse IP du domicile, au moins une fois par mois. Voilà. Donc à partir du moment où les enfants rentrent au moins une fois par mois à la maison et qu'ils se connectent sur le réseau de leurs parents, ça fonctionne. Donc c'est quand même une forme de tolérance quand même pour les étudiants.
Donc si vous faites venir tous vos amis une fois par mois chez vous et qu'ils se connectent à votre réseau, ils peuvent avoir Netflix gratuit.
Ça peut être une solution, oui. Ah,
c'est incroyable, il y a des failles alors.
Il va faire des soirées Netflix, t'invites tous tes amis.
Oui, c'est ça.
Voilà. Connectez-vous, c'est bon.
Il y a aussi des zones encore d'ombre, des choses qu'on ne connaît pas, parce que les résidences secondaires, on ne sait pas encore comment ça va fonctionner. Netflix n'a pas donné trop de détails, mais il ne s'agit pas de payer deux fois l'abonnement, un pour la maison, un pour la résidence secondaire, parce qu'effectivement, ça va finir par faire cher tous les mois.
Ça va pas arranger Perico, ça.
Pas du tout.
Netflix qui a quand même beaucoup hésité avant de mettre en place ces nouvelles mesures, Stéphane.
Oui, très honnêtement, on s'attendait à ce que les mesures soient mises en place durant la deuxième quinzaine du mois de mars. D'ailleurs, on en avait parlé ici.
Oui,
attends, mais Netflix a d'abord voulu voir la réaction des consommateurs. Il ne s'agissait pas de faire fuir tout le monde. Bah, en Europe, c'est l'Espagne qui a servi de poisson pilote, et ça n'a pas été sans conséquence. Des chiffres intéressants. Selon Kantar World Panel, c'est une société qui analyse le comportement des consommateurs, 1 million de personnes se sont désabonnées à Netflix dans le mois qui a suivi la mise en place de ces mesures, et 10% des abonnés restants avaient envisagé de se désabonner. Netflix n'a pas confirmé les chiffres, mais ils n'ont pas non plus démenti ces chiffres. Ils ont simplement expliqué qu'une partie des abonnés était revenue. Ça veut donc dire qu'il y a une partie qui était quand même pas, qui avait quand même quitté la plateforme. Et dans son rapport annuel, Netflix précise qu'au Canada, qui a été aussi une zone test beaucoup plus tôt d'ailleurs que l'Espagne, au final, le nombre d'abonnés avait progressé par rapport à la période avant la mise en place de ces nouvelles règles sur le partage des codes. L'autre question, c'est le piratage. On ne sait pas ce que les gens vont faire en Europe. Autant aux États-Unis, au Canada, c'est relativement surveillé. En France, ça allait beaucoup moins. Le piratage avait beaucoup reculé avec l'apparition des plateformes de VOD et de musique. Mais on ne sait pas ce qui va se passer maintenant si effectivement il faut payer 6€ de plus par mois pour ajouter une personne supplémentaire.
Et dernière question très rapide, Stéphane, on risque quoi si on continue à utiliser les codes de quelqu'un d'autre?
Franchement, on n'en sait rien. Netflix a simplement indiqué qu'ils allaient être user friendly, c'est-à-dire qu'ils allaient être sympas avec le consommateur, parce que l'objectif, c'est de faire payer davantage de personnes et pas de faire fuir tout le monde.
Voilà. Évidemment. Merci beaucoup Stéphane Pedrazzi, tous les jours la Minute Conso, 13h50 dans Estelle Midi. Stéphane, est-ce que vous êtes réunion de famille, vous? Est-ce que vous aimez ça?
Oui, mais j'habite un peu loin quand même.
De qui?
De ma famille.
Ah oui, d'accord.
Bon, c'est pas facile, ils habitent à 600 km. Alors, évidemment,
toute votre famille habite à 600 km.
Ouais, une grande partie. Ouais.
Ah bon, très bien. Non, parce que je vous demande ça, Stéphane, parce que nous allons parler d'une cousinade qui a eu lieu ce week-end dans le Nord. 824 membres d'une même famille se sont rassemblés pour une grande réunion de famille. Mais justement, pour vous, les réunions de famille, est-ce que c'est l'enfer ou le paradis? Vous êtes déjà très nombreux à avoir témoigné sur l'appli RMC. Et on continue à vous attendre au 32-16. A tout de suite dans Estelle Midi.
RMC, midi 15h.
Estelle Midi.